La revue de presse Claude Askolovitch.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et on parle, Claude, d'un complot ce matin.
Un complot mené par un juge depuis devenu ministre et un complot qui impliquait aussi des magistrats du parquet. Et ce complot aurait retourné une grande démocratie, le Brésil. Le Brésil dont les journaux reprennent depuis quelques heures l'enquête du site d'investigation The Intercept, l'Interception. L'Intercept publie des extraits de conversations sur messagerie électronique qui montrent la partialité du juge fédéral Sergio Moro qui organisait la chute de l'ex-président Lula afin d'empêcher la gauche brésilienne de revenir au pouvoir. Sa position théoriquement l'obligeait à la neutralité, mais en réalité Moro dirigeait de fait et conseillait le parquet et les enquêteurs d'une opération anticorruption. Il leur indiquait les directions à suivre et leur remontait le moral quand leurs preuves semblaient faibles. Moro finit par condamner lui-même Lula, ce qui l'empêcha de participer à l'élection présidentielle. Peu de temps avant l'élection, septembre 2018, la Cour suprême du Brésil avait autorisé un journal à interviewer Lula dans sa prison. Alors, dans leur discussion, les magistrats s'indignaient, traitaient les juge suprême de mafieux et redoutait que le retour de Lula puisse faire triompher le candidat de gauche remplaçant Haddad. On le sait, la gauche n'a pas remporté l'élection. Le président brésilien d'extrême droite s'appelle Jair Bolsonaro qui a fait du juge Moro son ministre de la Justice. Moro, dont l'objectivité est battue en brèche dans les documents que publie The Intercept. Mais il y a dans cette histoire une autre dimension presque romanesque, c'est le moment. The Intercept est un projet né de la rencontre entre un milliardaire, le fondateur de eBay, le milliardaire franco-irano-américain Pierre Omidyar, et un journaliste avocat, Glenn Greenwald. The Intercept s'est fait connaître en révélant les pratiques d'espionnage des services secrets des États-Unis et s'attaque donc maintenant au Brésil. Mais ce n'est pas un hasard, car le Brésil est l'autre pays de Greenwald où il est marié avec un homme, David Miranda, le seul député ouvertement homosexuel du Parlement brésilien, dans un pays où Jair Bolsonaro a fait de l'homophobie une haine d'État. Greenwald et Miranda sont régulièrement menacés de mort et Miranda siège au Parlement en remplaçant d'un autre homme, comme lui, noir et gay, qui a dû fuir le pays. Mais Miranda est restée. Vous lirez son histoire et celle de Greenwald, c'est en anglais, pardon, sur le site Medium, sur le journal homosexuel Queerty.com et dans le grand Time Magazine qui, le mois dernier, faisait de Miranda un des leaders d'une nouvelle génération politique. Oui, il se passe des choses dans le monde, à Hong Kong aussi, où des hommes pour la liberté manifestent.
En France, en revanche, on cultive plutôt la nostalgie.
Voire même la futilité à quelques exceptions notables. Ainsi Le Monde, qui publie sur le web une enquête fantastique sur des migrants réchappés de la noyade qui ont pris pied sur le sol européen et dont on voit les portraits à l'époque de leur sauvetage et maintenant, et leurs yeux, leur peau, leur sourire, tout s'est affermi, même si la peur parfois les poursuit. Autre exception, le Havre Libre, le Paris-Normandie, qui rappelle l'épuisement, en Normandie aussi, du personnel des urgences. Mais en dehors, oui, Léa, on ressent un sentiment de futilité quand le Parisien s'apitoie sur un beau jeune homme sujet au trac, ce qui le handicap pour passer des examens, mais pour 80€ de l'heure, une coach, en la faisant hurler, va arranger. Et cela, futilité encore quand le bien public peste à la une contre des tags que la ville de Dijon peine à faire disparaître ou quand Medilibre se fâche contre le soleil qui se fait attendre ce printemps. On se console de force. La belle force de Nadal à la une de l'équipe, la belle force des rugbymen de Toulouse et Clermont qui se rencontreront dans une finale de rêve de midi olympique ou la force de Madame Sabrina Sulem, maman de deux enfants qui est la femme la plus forte du Morvan. Elle est notamment dans le journal du Centre et dans le journal de Saône-et-Loire et dans un concours épique, elle a tourné et retourné à pneus de 100 kilos, entre autres amusements, allez-y essayer. À côté de ces exploits, on peut cultiver dans des journaux une nostalgie pas désagréable à lire et dans La Voix du Nord, je trouve la tendresse qui me prend quand je vois des familles dans des moments de bonheur. On me raconte dans ce journal les équipées d'il y a un demi-siècle, quand dans le bassin minier, on prenait le bus ou la deux chevaux pour partir à la mer sur la côte d'Opale. En ce temps-là, rappelez-vous les enfants, la cité se vidait d'un coup, tout le quartier en parlait. On partait parfois pour une journée ou parfois pour deux semaines à l'hôtel Regina de Berck, si on avait eu de la chance, si on avait fait partie dans le bassin minier, des familles tirées au sort. En ce temps-là, Bourville chantait salade de fruits à la radio et toutes ses enfants sont revenus hier dans la Voie du Nord et dans un grand cortège appelé la route des vacances, une opération qui réquisitionne les voitures d'époque et qui nous rappelle tout, y compris la halte rituelle à Esdin pour une frite et les glacières et les nappes à carreaux. Elles ont changé les vacances. Je lis dans le Figaro qu'on achètera cet été des drones sur la plage pour filmer nos ébats. On est bien loin du Regina. Je lis dans le Figaro encore qu'on bronzera si l'on est chic dans des maillots couvrants, sexy je dois dire, pour minimiser l'usage des crèmes solaires. C'est compliqué les vacances et le travail aussi. Mediapart me raconte une fabrique de dentelles, de seilles, une des dernières qui faisait la fierté de Calais. Des Chinois l'ont raconté. Le patron chinois l'a offert à sa fille, la gentille Madame Li, qui n'y connaissait rien. Le redressement judiciaire était au bout de l'histoire.
Et des souffrances, Claude, à Paris, pour finir.
Des souffrances, que me dit le Figaro, qui se penche avec les énus, les républicains de la capitale, sur les églises parisiennes qu'il faudrait rénover. Des souffrances, que me dit le Parisien, qui lui me parle de la Goutte d'Or, quartier populaire et d'immigration, empoisonné d'une violence qu'amènent des bandes de jeunes sans papiers isolés venus du Maroc. Les commerçants désespèrent et un restaurant ferme qui était la joie du quartier. Il faudrait les églises et un quartier se désoler de tout à la fois.
Merci Claude pour la revue de presse.